Alors, c'est ça. Tournez avec moi dans Genèse, chapitre 12, les versets 10 à 20. Genèse, chapitre 12, versets 10 à 20. Or, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme. » Et il arrivera que lorsque les Égyptiens t'auront vu, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. » Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que j'aie la vie sauve grâce à toi. » Et dès qu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Et les princes de la cour de Pharaon la virent et la louèrent devant Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Et il fit du bien à Abraham à cause d'elle. Et il eut des brebis, des bœufs et des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi tu dis, « C'est ma sœur, en sorte que je l'ai prise pour femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre pour lui à des gens qui le reconduisirent, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Alors, on va demander la bénédiction du Seigneur pour étudier notre texte. Alors, Seigneur, on vient en ta présence. C'est le jour que nous te consacrons. C'est le jour où nous voulons élever nos âmes, recevoir ta parole, Seigneur, ta sainte parole, et se laisser modeler par elle, se laisser instruire. Seigneur, permets qu'on saisisse très bien les principes que tu veux nous enseigner ce matin, parce que ta parole a toujours cette propriété de nous enseigner, de manière à nous transformer aussi, à changer des choses en nous. Permets qu'on saisisse bien ces principes, qu'on les mette en pratique dans notre vie de tous les jours, et tout cela pour ta plus grande gloire. C'est ce que nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé aujourd'hui le message « Les épreuves révèlent les faiblesses d'Abraham ». Et je pense que ça s'applique un petit peu aussi à nous. Quand le Seigneur nous met à l'épreuve, souvent, ça ne révèle pas nos forces, souvent, ça révèle nos faiblesses. Alors, on va regarder le texte sous trois angles différents. Les faiblesses déclarées, dans le verset 10, les faiblesses démontrées, dans le verset 11 à 16, et les faiblesses démasquées, dans le verset 17 à 20. Alors, on le sait, les faiblesses morales sont communes à tous les hommes sans exception. Et même les personnes régénérées, nous aussi, on a nos faiblesses. Et on sait que Abraham, d'après les Écritures, est considéré comme le père des croyants. L'Éternel ne permet pas qu'on raconte juste une petite histoire dans le but de raconter une histoire. Il y a toujours de la pédagogie dans les versets que le Seigneur veut nous enseigner. Alors, le père des croyants et celui qu'on appelle l'ami de Dieu n'est pas exempté des faiblesses. Ce que les Écritures sont particulières, c'est que jamais, souvent quand on va lire des biographies qui sont écrites par les hommes, disons sur un grand homme d'État ou une grande femme, n'importe quoi, on dirait qu'on a toujours tendance à monter en épingle leurs qualités et cacher un petit peu leurs défauts en dessous du tapis. Les Écritures ne font jamais ça. Même pour celui que Dieu appelle l'ami de Dieu, le père des croyants, quand il y a des faiblesses qui se produisent dans sa vie, les Saintes Écritures ne mettent pas ça en dessous du tapis. Alors, sont impartiales, les Écritures, ils ont ça de particulier. Parce que même s'il s'agit des faiblesses des saints les plus grands, l'Éternel permet qu'elles soient révélées. Probablement pour nous montrer que si le Père des croyants en a, peut-être devriez-vous prendre comme leçon que vous devez probablement en avoir vous aussi. On sait que, normalement, dans les Écritures, l'Égypte est un symbole du monde. Alors, quand on retourne, quand un croyant prend le chemin du sud par rapport au pays qui était Canaan, qui descend vers le midi, comme ça disait dans le verset 9 du chapitre 2. Alors, c'est un symbole, c'est comme un peu un symbole du chrétien qui, après sa régénération, après que Dieu lui a donné la vie, il sort et il retourne dans le monde. C'est un peu l'esprit du texte. Alors, Abraham, dans ce passage-là, il y a beaucoup à nous apprendre, puisqu'il nous révèle que ses faiblesses sont aussi très souvent les nôtres. La Bible ne nous a jamais dit qu'à partir du moment où on reçoit la grâce, que la vie va être un tapis rouge et qu'on n'aura pas d'épreuve et qu'il n'y aura pas de difficultés. Par exemple, quand on prend Acte 14, verset 2, ça dit « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que dans la vie chrétienne, on n'ait pas d'affliction, qu'on n'ait pas de souffrance, qu'on n'ait pas de difficulté, qu'on n'ait pas d'épreuve, comme Abraham. Et on a aussi dans 1 Pierre, le chapitre 1, les versets 6 et 7, il dit « En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut. » Alors, les Écritures nous disent que les épreuves nous sont envoyées parce qu'on en a besoin, parce qu'elles font des choses bien précises dans nos vies. Et dans le verset 7 de 1 Pierre, c'est « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. » Alors, on va regarder le premier point, qui est dans le verset 10, Genèse 12, 10. Et on peut même commencer, on va inclure le verset 9, quoi qu'il n'y ait pas dans le texte d'aujourd'hui, mais pour comprendre. Alors, le verset 9 dit, « Puis Abraham partit, marchant de campement en campement, ce qu'on a vu la semaine dernière, vers le midi. » Alors, la direction, quand tu es en Canaan, puis tu descends vers le sud, le midi, c'est le sud. Quand tu descends dans le sud, tu t'en vas en Égypte. Alors, il était parti dans une mauvaise direction. Et le verset 10 nous donne la raison pour laquelle il décide de s'en aller là. Ça dit, « Or, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. » Alors, on pourrait dire, « Ben, il n'y avait rien à manger, c'est anormal qu'il cherche à trouver de la nourriture ailleurs. » Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher la solution à son problème dans le monde, plutôt que de faire confiance à Dieu. Alors, un des premiers problèmes d'Abraham, c'est son déplacement de sa confiance. Dieu t'avait dit, t'avait pris de Ur en Chaldée, t'avait dit, sors de là, ta parenté, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Il avait bien commencé, il s'est rendu là, il s'est rendu compte en arrivant, oh, il y a des ennemis ici, ça va être plus difficile que je croyais. Et là, il se rend compte qu'en plus, il arrive une famine. Fait que là, tu as comme le choix, ou tu te fies à tes propres moyens pour t'en sortir, ou tu fais confiance au Seigneur. On a donc de la misère à faire confiance au Seigneur. Même après des années de vie chrétienne. On peut en témoigner. Alors, la confiance d'Abraham se déplace de centrer sur Dieu à centrer sur lui et à sa sagesse propre. Dans le verset 9, on avait constaté qu'il avait déjà pris une mauvaise direction en descendant. C'est drôle, même les Écritures utilisent le mot « descendre ». Et Abraham descendit en Égypte. Souvent, les mots ne sont pas choisis au hasard. Les mots signifient des choses. Alors, il décide de descendre vers l'Égypte. Chose qu'il faut remarquer, qu'il fait ça au moment où il vient d'arriver. Il vient d'arriver dans le pays que l'Éternel lui a donné, de dire d'aller. Il n'est pas aussitôt arrivé qu'il déjà y en sort. Ça peut nous donner une petite leçon quant à nous. On apprend par cela que les pressions de la vie, il y en a tout. Ici, en l'occurrence, c'est une famine, mais nous, pour notre propre vie à nous, Les pressions, ça peut être autre chose. Ça peut être du chômage, ça peut être de la mortalité, ça peut être quelque chose qui nous affecte profondément et qu'on est porté à aller chercher la solution de nos problèmes ailleurs que dans le Seigneur. Et l'Éternel va permettre dans chacune de nos vies qu'on ait des circonstances providentielles. C'est lui qui les contrôle, on oublie souvent ça. Il contrôle nos circonstances providentielles dans le but de nous mettre à l'épreuve. Qu'est-ce qu'on va faire dans une situation comme ça? On va-tu se tourner vers le monde, vers notre sagesse propre, ou on va dire, ça a l'air bien impossible que dans un pays où il y a de la famine totale, que l'Éternel puisse quand même s'occuper de moi. Alors, il semble le mauvais choix. Dans les Écritures, souvent, la famine est souvent déclarée comme étant la verge de Dieu. Il l'utilise de deux manières. Soit pour punir les méchants. Alors, les famines dans le monde, ce n'est pas des hasards. Le Seigneur s'en sert comme instrument de correction, pour corriger le croyant et améliorer son caractère. Parce qu'à partir du moment où tu as une grosse humiliation face à une mauvaise décision que tu as eue, que tu as prise, comme là on l'a vu qu'il n'y a eu pas une petite humiliation, mais une énorme. Alors probablement on se dit, normalement, dans la conduite de sa vie future, il aurait dû garder ça en mémoire puis dire, quand il va être avec Abimélec, il va refaire la même erreur une autre fois. Est-ce que ça ne nous parle pas que nous aussi, on est pareil? Le Seigneur nous donne des leçons, des fois. On serait censé la retenir, et quand il arrive une circonstance similaire, on se devrait de réagir et dire, « Ah oui, mais je me souviens, la dernière fois, j'ai fait une telle affaire, et ça a tourné au vinaigre. Alors, je devrais prendre la bonne décision cette fois-ci. » On va voir un petit peu plus loin quand on va continuer à étudier la vie d'Abraham qui va recommettre la même erreur. Alors, ça nous donne, je pense que ça a l'effet de nous humilier, de voir que même quand l'Éternel nous montre des affaires, les leçons sont plus ou moins apprises. Des fois, après la deuxième, ça peut arriver que tu aies compris, et là, tu changes vraiment des choses. Alors ici, toute l'énergie d'Abraham. Alors, quand tu dis que tu prends un pays, tu es avec une famille, tu es avec tes biens, tu décides de t'en aller en Égypte, c'est vraiment toute ton énergie qui est déployée pour te sauver d'une situation. Il tente d'éviter l'épreuve. Alors, au verset 10, on voit que sa réaction est contagieuse. Aussi, quand on prend des mauvaises décisions, il faut se rendre compte aussi que ça a une influence sur ceux qui nous entourent. Il n'était pas seul. Il était avec sa femme, il était avec son neveu, il était avec ses serviteurs et ses servantes. Donc, les décisions de celui qu'on considère comme le chef vont influencer le comportement de la vie des autres. Là aussi, il y a une leçon pour nous. Quand on fait des mauvais choix, comme père de famille, c'est le mari qui est censé être le chef de la famille. S'il fait un mauvais choix, ce choix-là va se refléter aussi. Les conséquences du mauvais choix vont être subies aussi par son entourage. Donc, la première erreur, qu'on pourrait dire, d'Abraham, ça a été son déplacement de confiance. La deuxième, je dirais possiblement des doutes. Le texte ne le dit pas, mais c'est possible, très très possible, les commentateurs mentionnent presque tous cela, que déjà Abraham avait senti toutes les difficultés de son pèlerinage. Il arrive dans le pays de Canaan, Dieu lui avait promis la prospérité, il arrive là, au lieu de la prospérité, c'est la famine. Il arrive là, il avait dit qu'il conquérirait le pays, qu'il l'occuperait, il arrive là, les ennemis sont pleins de pays. À quelque part, tu dois te dire, ouais, il m'a dit ça, mais les doutes. Alors, on est pareil, les doutes s'installent dans ton esprit. Alors, il voit le pays inhospitalier, rempli de méchants, et la prospérité promise n'est pas au rendez-vous. Autre chose, il est âgé, sa femme est stérile, et il voit mal comment les promesses de Dieu puisse s'accomplir dans de pareilles circonstances. Si on se mettrait à sa place, peut-être qu'on aurait réagi de la même façon. Alors, il est très possible qu'il y ait eu des doutes dans son esprit, mais comment Dieu va accomplir sa promesse compte tenu des circonstances? Et ça, c'est souvent notre comportement à nous. Dès qu'il arrive une difficulté, au lieu de dire « je fais pleinement confiance à Dieu, même si je ne vois aucune façon dont je peux me tirer ». Il y a des exemples dans l'Ancien Testament, des fois des guerres où l'Éternel, il y avait 185 menées, il y avait des armées énormes. Tu te dis « ben voyons donc, on ne pourra jamais gagner, ils vont nous écraser littéralement ». Et le Seigneur avait permis que dans une seule nuit, 185 000 hommes meurent. À quelque part, il faut apprendre qu'on a un grand Dieu. Il faut apprendre qu'il a des attributs qui sont infinis et qu'on se doit, nous, d'apprendre à être patient lorsqu'il nous envoie une épreuve. Mais il y a une chose à son actif. Il n'a pas décidé de retourner à Ur en Chaldée. Il descend dans le sud. Mais il aurait pu aussi dire, « Ah oui, c'est de même. On prend mes bagages, je prends mes petits, puis je m'en retourne à Ur. Ma parenté est là. Là, il n'y a peut-être pas de famine. » Mais au moins, il n'a pas retourné à Ur en Chaldée. Ça, c'est un point positif. La troisième chose qu'on voit déjà dans le verset 10, qu'on pourrait dire que sont les débuts de son problème, donc déplacement de sa confiance. Le deuxième, les doutes peut-être se sont installés dans son esprit. Et le troisième, je dirais que c'est la distorsion de son sens moral. Quand il nous arrive des épreuves, on est porté à avoir un sens moral élastique. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il dit? Il descend là-bas, puis la première chose qu'il fait, il dit à sa femme de mentir. On va voir tantôt que c'est un demi-mensonge, mais un demi-mensonge, c'est un mensonge. Il a dit que c'était sa sœur. Dans un certain sens, c'est vrai, il a utilisé ce qu'on pourrait appeler l'équivoque. Il a dit quelque chose qui était à la fois vrai et faux. Puis il n'a pas dit toute la vérité. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu du monde utiliser ça dans vos rapports avec vous autres. Moi, je l'ai vu souvent. Des fois, je dis, est-ce qu'on a l'esprit tordu? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, des fois, les gens vont dire, « Ah, ben j'ai pas menti, j'ai pas dit ça. T'as pas menti, mais t'as pas dit tout. Si t'as pas dit non plus que c'était sa femme, parce que si t'aurais dit que c'était sa femme, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, t'as menti. Faut pas ménager nos mots parce que c'est le père des croyants. Il a dit, c'est sa sœur. Dans un sens, c'était sa demi-sœur. Mais quand même, en ne mentionnant pas le fait qu'elle était son épouse, il mentait, tout simplement. Alors, pour sauver sa peau, il décide d'avoir un sens moral qui est un petit peu, vraiment, une distorsion. « Oh, ben là, c'est ma sœur. » Là, tu commences à avoir le sens moral élastique un peu. Souvent, lorsque les croyants sont éprouvés, ils estiment parfois exagérément le coût de leur foi. Souvent, les épreuves, c'est ça que ça nous amène. On se met à regarder le passé, on se met à regarder qu'est-ce que ça nous a coûté de devenir chrétien, qu'est-ce que ça nous coûte encore maintenant. Et ça nous a coûté des fois des amis. N'importe quel chrétien qui a moindrement d'expérience, qui marche avec le Seigneur, il se rend compte que des fois, ta vie chrétienne, tes choix, ta marche chrétienne peut te couper de ta parenté. Ça arrive très souvent, très, très, très souvent. Je l'ai vu souvent. Tu perds ta parenté, tu perds des amis. Tu te mets à vivre des insécurités. Alors, cette pression-là amène souvent les croyants à réfléchir et à tenter de régler leurs difficultés par leurs propres moyens et par leur propre sagesse. C'est le début du dérapage. Voyez-vous, il a commencé comme ça, il s'est dit, « Ah, ça va marcher, ils vont dire. » Et à un moment donné, on a vu que le Seigneur a permis que ça l'a dérapé complètement. Et ça aurait pu tourner beaucoup plus mal que ça. Là, on va voir dans le texte que dans le fond, l'Éternel a été plus que miséricordieux et plus que gracieux envers son croyant. Alors, parfois, dans Exode 16, verset 3, on voit comment le peuple d'Israël, quand il était sorti d'Égypte, et qui ont eu un petit peu une épreuve, qu'est-ce qu'ils ont été tentés de faire? Retourner en Égypte. Alors ça dit, et les enfants d'Israël leur dirent, ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez emmenés dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette assemblée. Voyez-vous, là, encore une fois, le même problème de la confiance en Dieu qui est pur. Ils rencontrent une difficulté. Ben là, on retourne en Égypte. Là, au moins, on avait des cocombes, on avait ci, on avait ça. Et ils se mettent à penser au passé et à rêver que c'était mieux. Le deuxième point, versets 11 à 16, c'est les faiblesses d'Abraham qui sont démontrées une par une. Alors, la première faiblesse qu'il a eue, c'était de recourir à l'équivoque. Équi, ça veut dire égal. Voque, ça veut dire voix. La voix qui dit une chose, mais qui peut vouloir dire deux choses en même temps. Ça, la publicité utilise ça de façon très, très, très courante. L'équivoque, dans le fond, c'est une façon, c'est un mensonge. Alors, il a recours à l'équivoque. Parce qu'il dit, verset 11, « Et comme il était prêt d'entrer en Égypte, vois-tu, il était sur le bord d'entrée, là, il a commencé à raisonner. Il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme. » Alors, c'est à sa femme, donc, normalement, c'était pas une surprise qu'il dit ça. Mais là, verset 12, il arrivera, là, il se met à faire un film. Ça, on est très fort là-dessus. Se faire du cinéma. On n'est pas encore dans une situation où on se dit, mais là, si je continue comme ça, il va arriver ça, puis il va arriver ça, puis il va arriver ça. Alors, il arriva que lorsque les Égyptiens t'auront vu, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Là, il se fait un scénario. Ils vont me tuer. S'ils me tuent, comment l'Éternel peut-il accomplir sa promesse? Je ne suis pas là. Il a dit que ce serait en moi, avec moi, par moi. Et là, il y a un problème. Il cherche à jouer avec les promesses de Dieu en pensant que Dieu a besoin d'aide. C'est un peu ça qui se passe. Ils diront, c'est sa femme, ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Verset 13, « Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que j'aie la vie sauve grâce à toi. » Abraham fait ici preuve de confiance en lui-même et dans ses propres moyens pour affronter la difficulté de sa situation. Il raisonne peut-être ainsi. Si les Égyptiens me tuent pour s'approprier de ma femme, que deviendra la promesse divine et la bénédiction future? Vouloir aider Dieu, c'est... Et des fois, on fait ça dans nos vies, vouloir aider le Seigneur. On ne se rend pas compte à quel point on ne peut pas faire grand-chose. On peut même pas, je dirais même pas grand-chose. Le Seigneur, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pas un petit peu, c'est rien. Alors, le croyant ne reconnaît-il pas ici sa tendance à vouloir aider Dieu? Aider Dieu. Imaginez-vous comment... qu'on se prend pour penser qu'on est capable d'aider Dieu. Et pour le faire, pour pouvoir aider Dieu, il fait usage d'un moyen condamnable, la tromperie. Saraï était sa demi-sœur. Ça, on voit ça un petit peu plus loin dans le texte. Mais son mensonge, donc, utilisait des propos équivoques, mais il omettait de dire qu'elle était aussi sa femme, en disant... Elle est ma sœur, c'était comme une demi-vérité. Où qu'on voit que c'était sa sœur, c'est dans Genèse 20. C'est un petit peu plus loin, mais on le sait quand même, parce que les Écritures nous le disent. Genèse 20, verset 12. « Mais aussi, en vérité, elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est point fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » C'était sa demi-sœur. À quelque part, en disant, elle est « Dis, tu es ma sœur. » Voyez-vous, il jouait un petit peu dans des zones grises, comme on dit. Et dans le verset 14 et 15, on voit que sa décision comportait des risques énormes. Je ne suis pas sûr qu'il les a vraiment saisis au moment qu'il a pris sa décision. Je pense qu'il ne les a pas saisis, parce que ça dit dans le verset 14 et 15, « Et dès qu'Abraham fut arrivé en Égypte, Les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Ça, ils l'avaient prévu. Mais une chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'est que la femme serait prise et amenée dans le harem de Pharaon. Là, tu tombais dans le harem du roi du pays. C'était comme... C'était risqué, là. C'était très risqué qu'elle finisse dans le lit de Pharaon. Il y avait une chose qui protégeait à l'époque. Parce que les rois, avant de laisser une femme venir dans leur lit, on le sait par Esther, la plupart des rois de cette époque-là avaient comme des coutumes de purification. Ils se disaient, oh, pour n'importe qui va rentrer dans le lit du roi, il faut qu'elle soit préparée, il faut qu'elle soit ci, il faut qu'elle soit ça. Alors, peut-être que, dans le fond, c'est cette coutume-là des rois qui a permis qu'il n'y ait pas de péché. Bien, il y a eu un péché, parce que Dieu a jugé, mais il n'y a pas eu consommation. Parce que ça rappelle arriver que Pharaon, s'il aurait dit, écoute, la petite, là, tu viens ici et tu couches dans mon lit, elle aurait été obligée d'y aller, là. Parce que dans ce temps-là, tu désobéissais pas à un roi, là. C'était comme tu te faisais zigouiller si tu faisais ça, là. Alors, on tarde pas non plus à constater que les meilleurs des plans des hommes comportent des imprévus et de l'incertitude. Quand on essaye de faire des plans en dehors des plans de Dieu et qu'on sort de la volonté de Dieu, il arrive toujours des affaires que le Seigneur permet qui arrivent pour nous corriger de ce qu'on est en train de faire. Le Seigneur n'est pas intervenu et dit « Hey, Abraham, va pas là, c'est pas ça que je t'ai dit, là. » Il laisse faire. Et comme normalement, son sens moral aurait dû être assez aiguisé pour pas mentir et pour faire confiance à l'Éternel. Alors, c'était très mal avisé de se servir de son épouse et de risquer sa vertu et son honneur. C'est ça qu'il faisait, dans le fond. Là. Parce qu'il savait pas comment c'était tourné. Mais quand tu prévois les plans de l'homme, comporte toujours des imprévus et de l'incertitude, et c'est sûr que ça va sortir quelque part. Alors, on voit que les complications et les empêtrements vont pas tarder à montrer leur face hideuse. Ça n'a pas été trop long que là, on a vu que, hop, tes petits plans, là, ça tourne au vinaigre et ça tourne très mal. Alors, les Saintes Écritures illustrent éloquemment que les croyants peuvent démontrer des faiblesses même dans leurs points forts. Ça, j'ai beaucoup aimé cette observation-là d'un des auteurs dont je me suis servi. Et là, il prend plusieurs exemples des Écritures pour nous montrer que des fois, dans les Écritures, certains croyants sont considérés comme forts dans un point en particulier. Donc, pour Abraham, normalement, son point fort, c'était la foi. Et il pêche par où? Un manque de foi. Maintenant, il donne d'autres exemples. Moïse, que les Écritures disent comme étant un modèle de douceur. Un moment donné, il choque. Pourquoi il choque? Pourquoi il fait une colère? Pourquoi il frappe le rocher deux fois? À cause du peuple. Le peuple a fini par avoir raison de sa douceur. T'as beau être doux, mais quelque part, quand on vient te chercher régulièrement, il ne s'allonge pas, Moïse, dans son point fort, a eu une faiblesse. Un autre, Salomon, modèle de sagesse, finit par prendre de très mauvaises décisions. Il a eu 1000 femmes. Et il a fait d'autres erreurs aussi, là. Parce qu'il est allé à cause. Le Seigneur avait dit que mélange-toi pas avec les femmes du monde, parce que si tu te mélanges avec les femmes du monde, ils vont t'entraîner dans leurs idolâtries. Et le texte nous dit que c'est en plein ça qui est arrivé. Un modèle de sagesse, celui qui en a reçu le plus de tous les hommes, puis qu'aucun homme n'en aura autant que lui, il pêche. Normalement, il n'aurait pas dû faire ça. Un autre, Pierre. Lui, qu'on pourrait dire, c'est un modèle d'audace. Pierre, c'est un audacieux. Mais il finit par se comporter comme un lâche. Quand il était de temps, il est arrivé l'épreuve de Christ, que là, il est arrivé dans la cour, les servantes l'ont reconnu. « Oh, je ne connais pas cet homme. » Et à quelque part, il finit par aller se cacher comme un lapin. Pourtant, c'est un gars audacieux, c'est un gars, il fonçait, c'est un fonceur, Pierre. Alors, dans son point fort, les Écritures nous montrent que même les hommes, même les croyants les plus forts, les croyantes les plus forts, les plus forts, ils arrivent exactement. Ça risque de nous arriver parce qu'on est des êtres faibles. Alors, ne nous surestimons pas, même dans nos forces réelles. Parce que si on prend chaque chrétien, disons qu'on commence à avoir de l'expérience de la vie chrétienne, on regarde les gens, on voit leurs forces, puis on voit leurs faiblesses aussi. Mais il faut se rappeler que même dans leurs points forts, ils peuvent tomber. À quelque part, ça a quelque chose, ça vient nous humilier, hein? Puis c'est bon qu'on soit humilié parce qu'il faut se rendre compte que sans le Seigneur, on peut faire toutes sortes de bêtises. Maintenant, l'autre chose, donc les risques abusifs, et le verset 16, c'est vraiment la rétribution. Les Écritures nous disent que quand on pêche, le Seigneur vient toujours nous chercher et nous corriger. Souvent, il utilise le péché. Si quelqu'un est orgueilleux, qu'est-ce que le Seigneur va faire pour le corriger? Il va l'humilier. Alors, le péché qui nous a amenés à s'éloigner du Seigneur, le Seigneur va se servir du contraire pour dire « Oh, la balloune, elle a soufflé, on va prendre une petite aiguille, on va péter. » Là, quand elle est pétée, bien là, des fois, tu te refais une autre balloune, puis là, le Seigneur sort son aiguille encore, puis elle pète encore. Il vient un temps qu'il n'y a plus de place à mettre des aiguilles, ça, quelque part. Alors, Genèse 12, 16. Voyez-vous, la rétribution arrive d'une drôle de manière. Il met l'honneur et la vertu de sa femme en danger, et l'Éternel permet que le Pharaon le comble de biens. Tu veux donner ta femme, mais en échange, je vais te donner des brebis, je vais te donner des bœufs, je vais te donner des chameaux, je vais te donner des serveurs, des serviteurs, des servants. Il dit, et il fit du bien à Abraham. Alors lui, probablement dans sa tête, c'était comme dans le but d'honorer Abraham. Lui, il dit, OK, c'est sa sœur, c'est son frère. Donc, si c'est son frère, moi, je vais prendre sa femme, en mettre dans mon harem. Moi, j'ai de l'argent en masse. Je vais te combler, je vais te donner tout ça. Imaginez-vous, mettons-nous dans la peau d'Abraham, que là, sa femme est rendue qu'elle est très risquée, qu'elle risque qu'elle se ramasse dans le lit du roi, de Pharaon. Et en retour, toi, là, tu te ramasses, là, tu es seul à ton problème de conscience, et là, tu dois commencer à réfléchir. Ouais, peut-être que j'ai pas fait un bon échange. J'ai perdu ma bien-aimée, mais j'ai bien des... Il entend ça, mais là, quelque part, ça devait parler à sa conscience. Quel mauvais échange j'ai fait. Le Seigneur le rétribue. Il lui montre que oui, il t'a donné plein de choses qui peuvent avoir une certaine valeur, mais pas en échange de ta bien-aimée. Et là, quelque part, ça a dû commencer à travailler dans son petit coco. C'est sûr et certain. Il devait se dire, quelle méchante erreur vient de faire là. Et là, il devait pas voir aussi de solution possible. Qu'est-ce que je vais faire pour me sortir de cette impasse-là? Là, il était vraiment dans le problème jusqu'aux oreilles. Comment me faire pour me sortir de là? Et là, au moins, il ne fait pas une autre tentative d'utiliser la chair pour se sortir de sa situation. Alors, le côté amer, odieux, exécrable et ignoble de l'échange d'Abraham s'est certainement manifesté avec puissance dans sa conscience. Il a échangé, même involontairement, son épouse bien-aimée contre des avantages de prospérité. Quand tu te tournes et tu regardes ça, là, oh, des bœufs, des vaches, même des petits serviteurs, des nouveaux qui t'ont donné, parce que les autres, à ce temps-là, ça marchait de même. Tu pouvais donner des serviteurs comme tu voulais. Puis là, tu te dis, ben, ma femme est dans le harem de Pharaon. Oh, ça va pas bien mon affaire. Ça va pas bien mon affaire. Mais ce qu'on trouve de tellement glorieux de la part de l'Éternel, c'est que le Seigneur aurait pu permettre la détérioration encore plus grande du péché, des conséquences. Il aurait pu lui laisser vivre les conséquences de son grave péché. On voit ici la miséricorde d'un verset. Le troisième point, c'est les faiblesses démasquées. Là, le Seigneur va dire, « OK, on enlève les masques. » Là, on va voir qui t'es vraiment. On va voir l'erreur que tu as faite. On va
Et non seulement il le fait, mais il le fait faire par un païen. Normalement, un chrétien qui se fait reprendre par un païen, ça devrait être la pire des choses qui peut nous arriver. Un païen qui nous reprend, faut pas oublier que ça, c'est l'Éternel qui le permet. Il permet qu'un païen nous reprenne, nous réprimande. Il est réprimé, il est réprimandé par un païen. Alors ici, dans le verset 17, on voit quelque chose. L'Éternel voit, OK, tu t'es embourbé jusqu'aux oreilles, maintenant je vais te sortir, mais ça prend quoi? L'intervention divine. Alors, verset 17, « Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abraham. » Voyez-vous, il y a un péché qui était commis. Même si Pharaon n'en est pas conscient, je pense qu'Abraham commence à l'être conscient un petit peu. Et c'est drôle ce matin parce que je disais, avec du temps un peu, puis j'étais dans Isaïe, je disais Isaïe 66, le dernier chapitre. Puis là, arrivé à la fin, puis je voulais avoir des explications sur le fait qu'il disait des nouveaux cieux, des nouvelles terres, les hommes viendront de Saba en Saba, et tout ça, de nouvelles lunes, tout ça. Puis il dit, ah, va aller voir, qu'est-ce que... J'ai un commentaire, Young, E.G. Young, je vais voir là-dedans, je regarde ce qu'il disait là-dedans. Et en passant, quand j'ai eu fini de regarder ce qu'il disait là-dessus, je suis allé dans le chapitre 53 pour regarder un petit peu ce qu'il disait sur le chapitre 53, qui est vraiment le chapitre des douleurs de Christ. Et il parlait de quelque chose, puis il me revient avec un commentaire sur la question des grandes plaies. Selon lui, les grandes plaies seraient comme des plaies de quasiment de nature lépreuse. Imaginez que si le Seigneur envoie un jugement dans la maison, c'est ça que ça dit, « Frappa de grandes plaies, Pharaon, et sa maison », ça veut dire si sa cour. Autrement dit, sa cour se ramasse avec des RM, avec des maladies graves comme la lèpre. Ce qui est le fun de voir, c'est que même les païens, à quelque part, quand il arrive quelque chose de fort comme ça, peuvent sentir que c'est la main de Dieu qui parle. C'est ça qui se passe, là. T'es un païen, mais il voit que c'est Dieu qui permet ça dans sa vie. Il dit, à cause et sa maison, à cause de Saraï, Dieu dit, je fais ça à cet homme-là et à toute sa maison. C'est là qu'on voit l'horreur du péché. Hein? Le Seigneur n'a pas dit juste à Pharaon. Il n'y avait d'autre d'intervenu là-dedans. Alors, quand un homme pêche, et qui est complice, à quelque part, il finit toujours par récolter, de subir le châtiment, en même temps que celui avec qui il a fait le péché. Alors, dans sa bonté et sa miséricorde, l'Éternel intervient avant que la situation ne s'envenime davantage. Ce verset nous enseigne plusieurs leçons. La première, c'est que notre péché finit toujours par nous atteindre. Je me souviens quand on allait prêcher dans la rue à Québec, quand Lucien mettait sa pancarte dans le cou, puis elle mettait ce verset-là. Ce verset-là, je ne sais pas ce qu'il y avait, quel effet il produisait sur l'esprit des gens, mais ça fâchait le monde de lire ça. Et c'est bien simple ce que ça dit. Mais si vous n'agissez pas ainsi, voici, vous aurez péché contre l'Éternel, et sachez que votre péché vous trouvera. Et dans la version Louis Sagan, c'est « Sachez que votre péché vous atteindra ». Ça faisait un effet monstre, ce verset-là. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'était comme ça. Alors, qu'est-ce que le verset 17 nous enseigne? Que notre péché, quand on pêche contre Dieu, et ce n'était pas un péché pas grave, là. C'était un péché grave. Et son péché a fini par l'atteindre. Ou le trouver, comme ça dit, votre péché vous trouvera. Donc, ça nous montre la leçon 1, c'est que notre péché finit toujours par nous atteindre. La leçon 2, c'est que les partenaires dans le péché participent à la punition divine. Psaume 105, versets 13 à 15. Allant de nation en nation et d'un royaume vers un autre royaume, il ne permit à personne de les opprimer. C'est qui? Il, Dieu, ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. le verset nous dit que Dieu châtie les rois, ici dans l'occurrence c'est Pharaon, à cause des croyants. Et c'est exactement ce qui est arrivé ici dans le passage. Et verset 15 dit, « Disant, ne touchez pas à mes oints et ne faites point de mal à mes prophètes. » Quand l'Éternel voit que la situation se détériore, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il intervient et des fois, le croyant se sort de son mauvais pas, mais il est très profondément humilié. Donc, versets 18 et 19, c'est vraiment, on voit le côté humiliant de l'intervention divine, parce que ça dit, « Alors Pharaon appela Abraham. » Alors, il a fait le lien. Dieu a permis que dans sa tête, il voit le lien qu'il avait, il avait pris. Et comment il a fait pour savoir que c'était la femme d'un autre? Ça, j'en ai aucune idée. Le texte ne le mentionne pas. Alors, comment il s'est... Mais ça dit quand même, Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? » Imaginez-vous, tu vois toute ta maison, ta maisonnée, ta cour malade, si c'était vraiment la lèpre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de lèpre, là, mais c'était affreux. C'est vraiment affreux. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? C'était de l'indignation, une réprimande ouverte d'un païen au père des croyants. Imaginez, le père des croyants qui se fait réprimander par un païen. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi? Là, il est comme indigné. Regarde, on est tous malades à cause de tout. Pourquoi tu m'as compté de m'entrer? Et là, il reconnaît la main de Dieu dans tout cela. Il dit, pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi tu dis, c'est ma sœur, en sorte que je l'ai prise pour femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et il se fait pas surmoncer à peu près, là. Imaginez-vous la honte dans sa tête à lui, la conscience qu'il reprenait. C'est bête, trouverait ce qu'il dit. J'ai agi follement. Et maintenant, l'Éternel se sert. Alors, souvent, le Seigneur se sert de l'humiliation de ses élus pour nous enseigner et pour nous transformer. Proverbes chapitre 3, versets 11 et 12. Mon fils, ne rejette point la correction de l'Éternel et ne perds pas courage de ce qu'il te reprend. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Quand on aime un enfant, il laisse faire n'importe quoi. Quand on a eu des enfants, on le sait, on intervient. Des fois, on est obligé de les corriger sévèrement. On est obligé même d'amener une petite douleur physique, des fois une petite fessée, une petite tape ou quelque chose, ou même des fois juste le ton. Des fois, ça fait plus mal juste de voir que ton père ou ta mère sont indignés contre toi et ça te fait plus mal parfois que d'avoir une fessée. Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 7, nous parle aussi que l'Éternel intervient et nous châtie quand on fait des bêtises. Il dit, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges, dit pas de sa verge, de ses verges, il peut frapper plus qu'une fois, là. De ses verges, tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils, car quel est le fils que son père ne châtie pas? » À quelque part, on voit Dieu intervient dans la vie d'Abraham et il se sert de l'humiliation d'être réprimandé sévèrement par un roi et qui lui dit, « Hey, va-t'en, je ne veux plus te voir. Je t'ai assez vu, tu m'en as fait de mal de même. » Et le caractère divin va se manifester aussi dans le verset 20. Et ça, c'est intéressant. « Et Pharaon donna ordre pour lui à des gens qui le reconduisent, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. » Qu'est-ce que Pharaon, qui était le roi d'Égypte, aurait pu faire à Abraham? Le tuer. « Hey, tu t'es moqué de moi, toi? Tu te moqueras pas deux fois. On va te couper la tête. » Il aurait pu dire aussi, « Hey, ordonne-moi tout ce que je t'ai donné, je te dois rien. » Il laisse partir avec tous les animaux, avec la richesse que... Alors, autrement dit, la conséquence de son péché, comme un souvenir qui va te suivre, Parce que les brebis et les chameaux, ils vont. Mais ça va être dans ta tête, ça va être un souvenir de ta bêtise. Alors le Seigneur se sert, mais il vient nous montrer son côté, certains aspects de sa personne dans ce texte-là. Miséricordieux. Aurait pu permettre que le châtiment soit beaucoup plus sévère. Condamnation à mort, où il aurait pu dire, prenez cet homme-là, mettez-moi ça dans le donjon, dans le trou le plus profond, puis qu'il reste là pendant des années, peut-être même jusqu'à la fin de sa vie. Après ça, il aurait pu lui faire mal, il aurait pu le torturer, ou le faire torturer. Il aurait pu lui enlever ses biens. Il aurait pu l'expulser du pays. Il a juste dit, va-t'en, il n'a pas dit, hors de mon pays. Voyez-vous, même à l'intérieur de la punition, du châtiment d'Abraham, la miséricorde de Dieu se manifeste. C'est-tu beau? Moi, ça me touche. Après ça, l'omnipotence. Est-ce que Pharaon n'a pas pu voir la main et la puissance, la toute-puissance de Dieu, juste par la manière dont Dieu avait permis que ça arrive dans sa famille, dans son clan? Quand tu vois que tout le monde tombe malade en même temps, c'est pas un hasard, là. Alors, l'omnipotence, fallait sûrement que Pharaon et même Abraham a dû se rappeler, oh, comme Dieu est puissant. Après ça, la souveraineté. Dieu a permis que Pharaon fasse le lien entre les plaies qui lui sont envoyées et le fait qu'il ait pris sa femme. Ça dit pas comment. C'est comme, ça sous-entend que Dieu lui a ouvert l'esprit pour qu'il comprenne qu'il y a un lien entre le fait que tu as pris cette femme-là et ce qui t'arrive. Ça prend la main souveraine de Dieu pour être capable d'agir dans l'esprit des hommes. Et autre dernier point, l'avant-dernier, jaloux de son honneur. Le Seigneur, quand il est jaloux de son honneur, les Écritures nous donnent plusieurs exemples d'intervention divine pour la protection de son honneur. Voyez-vous, il dit, « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Vous que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Autrement dit, quand les enfants de Dieu amènent du discrédit sur le nom de Dieu, Dieu intervient. Parce qu'il est jaloux de son nom. Pour pas que les autres pensent toutes sortes d'affaires stupides sur Dieu. Et la dernière chose qu'on voit, bien sûr, je pense qu'on pourrait voir presque, je dirais même, tous les attributs. Si on mettrait réfléchir par tourner l'histoire sur tous ses angles, on verrait qu'il n'y a pas un attribut de Dieu qui n'est pas présent à l'intérieur de ça. Mais je n'ai mis miséricordieux, omnipotent, souverain, jaloux de son honneur. Et le dernier, j'ai mis juste. Alors l'Éternel permet que le grave péché d'Abraham soit découvert. De plus, il reçoit une sévère réprimande et un châtiment de la part d'un païen qui devrait être le déshonneur suprême pour un croyant. Quand un inconverti vient te reprendre sur une affaire morale, tu devras pas être content de ça, tu devras pas être fier de ça. Parce que ton sens moral est censé être pas mal plus haut que lui. Alors, quand un païen te fait un reproche, une réprimande de nature morale, c'est vraiment le déshonneur suprême, c'est vraiment l'humiliation. Sans doute que Abraham avait perdu sa paix. J'imagine, là, à la fin de tout ça, là, bon, Pharaon, il a dit, tu t'en vas, je te ferai pas de mal, je te mettrai pas en prison, je te tuerai pas, je te laisse même les biens que je t'ai donnés, mais dégage, comme on dit. Alors, il lui dit dégage, mais d'un autre côté, ça a dû être une occasion pour Abraham d'entrer en lui-même et de s'humilier devant Dieu. La preuve, c'est que quand on commence le chapitre 13, qu'est-ce qu'on voit? Il monte d'Égypte vers le midi. Là, il fait le contraire. Il remonte par en haut. Et vous, ça a un effet sur lui. Il décide de quitter le pays. Alors, autre chose que l'effet désastreux qu'il a dû constater, j'ai été un mauvais exemple pour mon épouse, pour Lot, pour mes serviteurs, pour Pharaon, pour sa cour, tous ceux qui étaient impliqués là-dedans, le croyant devient un mauvais exemple, un mauvais témoignage. Je ne sais pas s'il y en a un d'entre nous qui ne connaît pas ce que c'est, être un mauvais témoignage des fois. Quand on fait des bêtises, là, si on fait une bêtise qui est un petit peu publique, sans que ce soit la grosse affaire des journaux, là, mais un petit peu autour de nous, que ça se répand un petit peu, là, on a fait une bêtise, là. On devient un mauvais témoignage, c'est honteux, on a honte. Et c'est une bonne chose, parce que ça fait en sorte qu'on retourne en soi-même, on confesse notre péché, et on se dit à Dieu, « OK, je me relève, puis je continue. » Alors, bien sûr, il est un mauvais exemple pour la cour de Pharaon et pour tous ceux qui le suivent. Et sa communion avec Dieu, à ce moment-là, est sûrement troublée. Et quand l'équivalent nous arrive dans nos vies à nous, nous aussi, on est dans cette situation-là, humiliés, et notre communion avec Dieu est brisée. Alors, quelque part, une chance qu'on a une solution. On retourne au Seigneur, te demande pardon, Seigneur, j'aurais dû te faire confiance, j'aurais pas dû dire au Pharaon qui était ma sœur, et là, tu confesses ton péché. Et tu recommences, tu réentres en communion avec Dieu, tu continues ton chemin. La chose que je pense que les Écritures veulent nous montrer quand on va revoir Abraham faire la même bêtise avec Abimélec, c'est que on est dur d'oreille des fois. C'est comme le Seigneur nous a dit quelque chose qu'on dit « Hein? Qu'est-ce que tu dis? » Et on recommence, on fait la même bêtise une autre fois. Alors des fois, combien de fois ça nous prend avant qu'on soit corrigé? Et seul le Seigneur le sait, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quelqu'un qui est venu sur la terre, il a dit souvent à ses disciples qu'il était dur de comprendre les choses, il était lent à comprendre, comme vous êtes lent à comprendre. Même après t'avoir corrigé, même après t'avoir humilié, même après t'avoir fait pleinement réaliser la nature de la bêtise que tu as faite, va te représenter devant. Et ça, là, ça, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais moi, je l'ai remarqué. Quand on manque notre coup à quelque part, que le Seigneur est obligé de nous corriger pour nous ramener dans la bonne voie, souvent, il va permettre des circonstances similaires pour voir si cette fois-là... L'épreuve, c'est ça. C'est pour savoir, t'as-tu compris? Si t'as compris, normalement, quand je te replace dans des circonstances similaires, tu ne devras pas agir de la même façon que tu as agi la première fois. Tu devras tenir compte de ça. Alors, le Seigneur permet souvent, quand on a des échecs dans notre compréhension, qu'il nous remet souvent dans des circonstances similaires pour savoir, « Ah, y as-tu compris, là? » Si tu as compris, tu ne referas pas la même affaire. Alors, je vois trois applications dans notre texte aujourd'hui. Apprenons avec consternation et humilité que le meilleur des croyants peut tomber dans de graves péchés. Prions constamment, soyons sur nos gardes et veillons. Deuxième application, apprenons que le pire des péchés commis par un véritable croyant n'écartera pas la grâce souveraine et la miséricorde de Dieu. Ça, c'est-tu merveilleux? On peut faire des bêtises graves, mais si on est vraiment sauvé, le Seigneur ne nous laissera pas là. Ah, t'as tombé? OK. T'as rien compris? Reste là. Pas ça. Le Seigneur est miséricordieux. Il nous relève. Puis il veut changer notre caractère. Il veut qu'on change notre façon de voir les choses. C'est vraiment très, très rassurant de savoir ces choses-là. Troisième chose, apprenons que le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Les réprimandes, parfois très sévères, des incroyants et des méchants du monde sont souvent mérités par les membres des églises. Ça, je le dis, je sais que c'est vrai, mais à quelque part, ça devrait arriver de moins en moins. Parce que on dit que le Seigneur châtie ceux qu'il aime, et les réprimandes, parfois très sévères, viennent pas des frères et des sœurs. Souvent, des réprimandes concernant notre sens moral, notre façon d'agir, nous est reproché par des païens, des incroyants. Puis, je pense que des fois, on le mérite. Et le Seigneur le permet, la preuve, c'est ça qui est arrivé. Là. Le père des croyants fait une bêtise et l'Éternel envoie, l'humilie profondément pour lui montrer, regarde, pas de même que ça marche. Il aurait fallu que tu me fasses confiance plus que ça. Alors, rendons grâce à Dieu pour son don ineffable, la personne de Jésus-Christ. Amen.